Chapitre 8. La lune était pleine et encore visible dans le ciel pâlissant de la ville blanche quand Sherlock Holmes arriva avec Henry James au palais des manufactures et des arts libéraux le lundi matin avant 6 heures.
« Je ne comprends pas pourquoi vous me traînez ici, » ronchonna James ensommeillé. « Je n'ai rien à voir dans tout ça. »
« Mais si, au contraire, » dit Holmes. « Vous êtes mêlé à ce qui arrive depuis le début et c'est aujourd'hui que tout va se jouer. » Vous devez assister au dénouement. Et puis, j'ai donné votre nom à une certaine dame qui va vouloir la clé.
Quelle dame? Quelle clé?
Bégaya James. Il se tut en voyant le colonel Rice, Monsieur Drummond et McLaughlin, le chef de la police de Chicago, qui les attendaient au pied de cet immense bâtiment le plus imposant de tous les palais de l'exposition. Rice déverrouilla la porte, les fit entrer et referma à double tour derrière eux. Menant la marche, Holmes se dirigea vers l'ascenseur Otis Hale. Une fermeture grillagée interdisait l'accès du public quand l'ascenseur ne fonctionnait pas. Le colonel Rice l'ouvrit avec une clé qu'il tendit ensuite à Holmes. Ce dernier s'en servit alors pour ouvrir la porte de la cabine. « Voyez, monsieur James, » expliqua Holmes en la lui tendant. « C'est la même clé qui ouvre les deux portes. Vous ne devez vous en servir que si une dame vient vous trouver et vous demande de l'emmener à l'étage du toit. Il se peut qu'elle se montre persuasive. »
« Mais je n'ai aucune idée de la façon dont on dirige, dont on contrôle, dont on fait fonctionner cet engin !»
protesta James. Drummond entra dans l'ascenseur et désigna une manette.
« Poussez vers la gauche pour monter, plus on pousse à gauche, plus on monte vite. N'oubliez pas de ralentir en arrivant au toit, où vous et votre passagère vous retrouverez sur la lune. »
« Un mécanisme automatique vous freine et vous fait arrêter même sans pilotage !»
précisa le colonel Rice qui craignait de toute évidence que James prenne au pied de la lettre la boutade de Drummond. Pas du tout rassuré, James voulut remettre la clé dans la main de Holmes. « Ne faites pas le gamin !» gronda Holmes en refusant de la reprendre. « Vous êtes déjà monté des milliers de fois dans des ascenseurs, monsieur James. »«
Pas si souvent que ça !» grommela l'écrivain.
En effet, il y avait peu de raisons d'installer des ascenseurs à Londres ou à Rome ou à Florence, ces villes de prédilection. Estimant visiblement que la question était réglée, Holmes rejoignit Drummond dans la cabine et lui demanda « Combien de tireurs d'élite avez-vous mis en place ?»«
Le président Cleveland refuse absolument que nous mettions des hommes armés sur les toits en pleine vue du public. Il dit que cela gâcherait ce jour de fête et rappellerait trop l'inauguration de la deuxième investiture de Lincoln, avec ses toits hérissés de soldats.
Soit. Soit, dit Holmes. Dans ce cas, combien de tireurs discrets cachés à la foule avez-vous posté?
12. Allongés ou dissimulés aux derniers étages de tous les grands bâtiments se trouvant dans la ligne de mire directe de la terrasse sud de ce palais.
Bien. Muni, bien sûr, de lunettes télescopiques.
Oui. Grossissement de 20.
Surtout, rappelez-leur qu'ils ne doivent pas tirer avant mon signal, ou seulement si j'ai été abattu. Il faut éviter des échanges de tirs au-dessus des têtes de 100 000 personnes.
Qu'est-ce qui vous donne à penser que Lucas Nadler choisira la promenade de ce bâtiment pour installer son poste de tir?
Demanda le colonel Rice. J'en ai la certitude, c'est tout. Il s'installera à l'extrémité est de la terrasse. À mon avis, à côté ou derrière le projecteur allemand géant qui est fixé au coin.
Une cible difficile à atteindre depuis nos postes de tir,
remarqua le divisionnaire McLaughlin.
Justement, rétorqua Holmes.
Mais nous ne le laisserons pas sortir vivant du bâtiment,
affirma Rice. Holmes approuva et se tourna vers James. Le public aura accès à la plateforme d'observation toute la matinée jusqu'à 10 heures, dit-il lentement. Puis les hommes de la garde colombienne du colonel Rice évacueront la zone des terrasses pour s'assurer qu'il n'y reste plus personne. Et après cela, ils verrouilleront l'accès à l'ascenseur en fermant la porte grillagée et celle de la cabine, dont vous aurez la clé.
« Une clé que je dois donner à une inconnue, »
compléta James d'une voix tremblante. « Vous verrez que c'est la fameuse Irène Adler dont je vous ai montré la photo. Cheveux au burn, menton décidé, pommettes magnifiques. » Et des yeux d'un bleu si profond qu'ils en sont presque indigo. Holmes tendit le bras.
« Adieu, mon vieux. Merci pour tout. »
James lui serra la main et leva un œil inquiet sur les 60 mètres de colonne d'ascenseur qu'il allait devoir emprunter pour monter. Les quatre hommes quittèrent le bâtiment et le colonel Rice ferma la grande porte à clé derrière eux.
« Le palais des manufactures et des arts libéraux va ouvrir ses portes à son heure habituelle !»
récapitula Rice à l'intention de Henry James.
« Ensuite, à 10 heures, mes hommes feront sortir les visiteurs du toit promenade et nous mettrons un écriteau indiquant que ces attractions, l'ascenseur et les terrasses, seront interdites au public entre 10 heures et 14 heures. Bon, beaucoup de gens auront l'idée d'y monter pour mieux voir le président et c'est justement ce que nous voulons empêcher. Vous devez être là à 10 heures précises. »
James contempla la grosse clé qui lui avait été confiée et la mit dans sa poche de gilet.
« Et que voulez-vous que je fasse en attendant ?»
s'enquit-il d'un ton quelque peu plaintif.
« Si j'étais vous, » dit Drummond, « je prendrais le vapeur pour retourner sur le yacht du sénateur et j'essaierais de dormir encore 1 ou 2 heures. Assurez-vous simplement de vous faire réveiller à temps pour revenir à 10 heures avec la clé dans la poche. Vous n'aurez rien à dire ni à faire. »
L'écriteau sera mis en place pour annoncer la fermeture. La porte grillagée sera tirée et verrouillée. Et le public déçu sera en train de sortir pour aller voir le président depuis l'esplanade.
Plus tard, James ne se souvint pas s'il avait répondu, ni même s'il avait hoché la tête avant de retourner à la jetée.